podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 2 février. J'ai passé jusqu'à la dernière seconde à tenter de décongestionner mes voies respiratoires. Je vais essayer de m'arranger pour que mes M sonnent comme des M et non pas comme des B ou des P. Mais je devrais être correct. Je devrais survivre à ça. Puis vous excuserez mon accent grippé. Salut Martin.
Hello. Hey Frank, sais-tu qu'aujourd'hui c'est un jour historique?
Oh, pourquoi?
Parce que on va pouvoir voir ce soir, dès 21h, le plus beau des hommes laids sur Twitch, sur tout ce qui est TV. Ça va être, écoute, ça va, pour la première fois, world premiere, le spermatozoïde sera visible.
Ah, Colin, ça va piquer les yeux un peu, mais je suis sûr que ça va être meilleur, ça va être le fun à regarder.
Ben non, c'est ça, puis les gars, ils sont bien excités, et nous autres aussi, parce que ça va être bien le fun, c'est du contenu additionnel, fait que soyez là ce soir, venez encourager nos amis Mike Tremblay et Steve Depoche dès 21h, donc voilà, c'est ce soir que ça commence.
Cool, cool, cool.
Ils sont pas grippés, eux autres.
Non, bon. malgré mon état épouvantable de grippe d'homme qui est plus souffrante, j'ai réussi à trouver...
Ah oui, c'est pire, les gars.
Ouais, ah oui, c'est pire. Ben, en tout cas, on est bon pour chialer, pour se lamenter.
Oh oui, c'est ça, je voulais pas dire... Hey, mesdames, je voulais pas dire que c'est vraiment pire. Je veux dire que nous autres, on fait comme si c'était pire. Oh, non, je suis d'accord avec vous autres.
On a un talent particulier pour se lamenter comme des enfants quand... quand on est indisposé comme ça. C'est pour ça que je suis chez ma blonde pour qu'elle puisse me dire en personne, arrête donc de chialer, c'est pas si pire. Elle a pas dit ça, elle est bien trop fine. Mais elle a dû le penser au moins une fois ou deux.
Non, je pense pas elle doit trouver fatiguant, c'est sûr. Elle doit trouver fatiguant. Ah, 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 je suis grippé.
Non, moi, je fais juste plus chialer après les médicaments. Là, ça marche jamais assez. Là.
Tu fais bien pitié. Mais encore.
Mais encore, du monde qui ont des meilleures raisons que moi de se plaindre, notamment, écoute ça. Ça s'est passé le 5 avril en République dominicaine. Il y a un commandant de bord qui s'en allait partir de là-bas après avoir laissé ses touristes-là. Il était... c'est une compagnie, moi, je ne la connais pas, le Pivot Airlines. Pivot Airlines. Connais-tu ça?
J'ai entendu ça de ma vie, puis j'ai voyagé un peu.
C'est une petite compagnie de Toronto, OK? Mais okay. La compagnie, c'est pas le problème. Le problème, c'est plus le système de justice et la police, la République dominicaine, je pense. Écoute, ils s'apprêtaient à partir, puis ils faisaient les vérifications d'usage. Et il s'est rendu compte qu'il y a une soute sous-née de l'avion qui n'était pas fermée. C'est une alarme qui l'a averti de ça. Et puis, en voulant aller refermer la soute, il a découvert 8 sacs de sport, des beaux sacs Nike, là, des belles poches de hockey, pleines de coke. Hein? 210 kg de coke, ça en fait beaucoup. Évidemment, le pilote a fait ce qu'il devait faire. Il a averti les autorités locales et la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Il dit, écoutez, j'ai trouvé quelque chose. La soute était mal fermée, puis j'ai trouvé plein de drogue dedans. Donc, okay. Lui s'est dit, c'est la chose à faire. T'sais, il veut pas avoir de trouble. Puis, en toute bonne conscience, il avertit les autorités, t'sais, comme tout bon citoyen du monde devrait faire. Eh bien, ils l'ont sacré en prison. Lui et son équipage se sont tous ramassés en prison. Ils ont été là 8 mois.
C'est assez, voyons donc.
Hein, c'est assez dégueulasse, là. Ils ont mis dans une prison surpeuplée en plus à une cinquantaine de kilomètres de Punta Cana. La justice dominicaine a saisi leur passeport, les a empêchés de quitter le pays en attente d'un procès qui est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de procès. Donc, pendant les 8 prochains mois, après ça, ils n'ont pas été en prison dégueulasse pendant 8 mois. Ils ont été là au début, mais ensuite, ils étaient assignés à résidence. J'imagine qu'ils devaient être dans une espèce de resort, ah ouais. De prisonniers, je sais pas.
Je sais pas si... comment ça s'appelle, ça? Inventez-moi un nom là, de resort qui a rapport avec prison.
Oui, c'est bien genre le genre de resort qui te laisse aller faire l'épicerie, mais accompagné de gardes avec des mitraillettes. Là, c'est des, ouais, les géos ont des. C'est un resort où les géos sont armés de mitraillettes. Ils ont été pris là pendant 8 mois. On parle de, c'est une détention illégale.
Club Géol. Le Amalega Motel.
C'est-tu des commentaires, ça?
Oui.
Amalega Motel. Aïe, aïe, aïe. Punta Amalega, les ont détenus
le
comme
Bordeaux
ça.
Le Bordeaux Inn.
De façon illégale. Puis ça, c'est un journaliste et sociologue dominicain qui affirme ça. Il s'appelle Lisandro. Pas Lisandro, mais Lisandro Torres. Et d'ailleurs, les suspects, le pilote et son équipage, n'ont jamais été ni accusés, ni interrogés. Il n'y a jamais eu de procès. C'est juste, t'as trouvé de l'avion, t'as trouvé de la drogue dans ton avion, tu nous as avertis pour prévenir du trafic, pour empêcher que les trafiquants de drogue parviennent à leur fin. Bon, calice, tough en prison. Pas de procès, pas d'interrogatoire, pas rien. L'agente de bord, Christina Carello, a au moins eu le génie de regarder les images des caméras de surveillance de l'aéroport qui avaient été déposées en preuve. Puis, ben, il manquait 40 minutes de footage. Il manquait 40 minutes d'image. Ah, ben, gadon.
Coup de théâtre.
Les caméras de l'aéroport. Tu sais, c'est comme. On dirait que les autorités, c'est eux autres qui se sont fait pogner. On dirait que c'est les autorités ou l'aéroport, c'est eux autres qui se sont fait pogner là-dedans, puis on dit ah non, c'est pas vrai. Là. Non, non, là, prison. C'est
le meilleur nom de ce resort-là, on vient de l'avoir, Frank, c'est vas-y. Guantanamo Beach.
Donc, ils ont été pris à Guantanamo Beach. Mais bon, il manquait une quarantaine de minutes aux images de la caméra de surveillance de l'aéroport. Mais au moins, il y avait une autre caméra qui filmait de plus loin sur lesquelles on avait oublié d'enlever ces 40 minutes-là. Et on voyait un véhicule s'approcher de l'avion, mettre la cochonnerie dedans. Puis là, ben, le procureur qui était chargé du dossier dit « Ah ben là, on n'a plus assez de preuves. » OK, fait que la preuve, dans ce système de justice-là extraordinaire, la preuve, c'était une caméra vidéo sur laquelle il n'y avait aucune image compromettante et qui manquait 40 minutes de temps. c'est les preuves que les procureurs, dont les procureurs se servent apparemment à Punta Cana pour accuser des gens de trafic de drogue.
Je suis pas capable, Frank, de m'empêcher de penser à quand il y avait certains. Je pense que c'était André Desfossés, mais je veux pas parler d'André Desfossés nécessairement, mais. Tu sais, puis le monde, il disait, voyons, vous pouvez pas m'incriminer avec une vidéo que c'est pas moi qui a pris.
Ben là, c'est une vidéo qu'il n'y a même pas rien, ces images, rien de compromettant, et qui manque 40 minutes. Et sur l'autre, ben, on voit un véhicule noir approcher, donc. Vraisemblablement, c'est pas le pilote et l'équipage qui a mis 200 kilos de coke dans l'avion. Donc, ils sont dit, bon, ben là, on n'a plus de preuves. Notre non-preuve n'existe plus. Et puis.
Absence de preuves.
Ouais, ben ça. Ils ont été libérés. Et maintenant, le pilote, d'ailleurs, les autres pilotes qui ont vu ça, d'ailleurs, un pilote d'Air Transat qui commente ça, il s'appelle Dominique Daou, il dit que s'il était confronté à la même situation, s'il devait trouver de la drogue dans son avion, Ben, il dirait juste une fois qu'il est dans les airs, tu sais, juste pour être sûr de pas se faire arrêter pour rien par une police apparemment corrompue, puis un système de justice de République de banane tout croche. Il dit, moi, je prendrai pas le risque avec de soumettre mon équipage et moi-même à me faire emprisonner injustement, sans l'ombre d'une preuve, parce que j'ai fait mon devoir de dénoncer un trafic de drogue. Un pilote de ligne ne devrait jamais avoir à choisir entre la sécurité aérienne et sa liberté.
Oui, c'est vrai. Ben non, mais c'est pas grave, Frank. Anyway, là, on l'a dit hier, il n'y en a plus d'accidents d'avion. Là, fait que là, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent.
Ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent.
Mais ça a vraiment l'air d'un setup. Là. Ça a vraiment l'air d'être. Oui. Tu sais, qu'il y a du monde qui se sont fait framer puis qui se sont ramassés à Guantanamo Beach.
Ben, on dirait que c'est les autorités ou à l'aéroport qui devaient faire bénéfice avec cette drogue-là. Puis ils se sont fait pogner par un pilote puis pour lui apprendre à bien se mêler ces maudites affaires. Ils l'ont sacré ainsi que tout son équipage, les agents de bord, en prison, puis ils les ont détenus pendant 8 mois de façon tout à fait illégale. Ça n'a pas l'air d'un problème là-bas. Ils ont fait leur travail convenablement, puis ils ont été emprisonnés pour avoir accompli leur devoir. Puis d'ailleurs, en ce moment, il y a une ressortissante belge qui est toujours en prison là-bas après que des employés de l'aéroport de Punta Cana eurent été pris en flagrant délit de placer 50 kilos de coke dans ses bagages. OK? C'est pas elle, là, qui a voulu faire du trafic de drogue. C'est la gang de l'aéroport, là-bas, qui ont mis de la drogue dans ses bagages, puis c'est elle qui est en prison. Hey, c'est-tu le fun, la justice à Punta Cana, république de bananes tout croche?
Guantanamo Beach.
Ah, ça fait dur en maudit. Justice épouvantable.
Ça te tente-tu qu'on reste dans le légal?
Oui, donc.
Tu te rappelleras, bien sûr, de ce gentil garçon que Kyle Rittenhouse, qui avait été acquitté, bien sûr, de domicile sur deux personnes, en fait, là, à Kenosha. Ça s'était passé le 25 août 2020 dans le contexte d'une manifestation. À cette époque-là, Kyle Rittenhouse avait 17 ans. Et sa défense était principalement basée, là, on ne refera pas le procès, mais c'était principalement basé sur le fait que il pensait protéger genre les commerçants. Là, ça c'était. Il s'en allait là, dans le fond, pour comment je te dirais ça? Pour protéger, pour défendre l'endroit, parce que là, il y avait un paquet de monde qui arrivait, puis ainsi de suite. Puis finalement, il n'a pas été reconnu coupable de ça. Mais là, la nouvelle, en fait, est la suivante, c'est que ça s'est passé Kenosha, c'est dans l'Illinois. Et Rittenhouse, lui, vient de l'Illinois. Par contre, Kenosha, le site ou le lieu où ça s'était passé, là, j'ai pas exactement l'état, mais ce que j'essaye de dire en pédalant, c'est que c'est dans le Wisconsin qu'on a autorisé une poursuite pour wrongful death lawsuit. Tu sais, dans le fond, c'est que c'est pas un homicide. C'est, écoute, je saurais pas te dire la traduction francophone du terme légal en tant que tel.
Mort qui n'aurait pas dû avoir lieu.
Ouais, mort est justifiée. Voilà, ouais. Je l'avais cherché quand j'ai trouvé la nouvelle. Mort est justifiée. C'est au civil, par exemple. Ça, c'est important de le mentionner. Okay. Puis évidemment, l'Amérique tout entière va suivre ça parce que Kyle Rittenhouse, après ce procès-là qui était très médiatisé, avait une attitude d'un peu désinvolte, je te dirais, là, par rapport à ça, là, tu sais, I got away with it. C'est un peu ça que ça donnait comme impression. Mais là, le problème, Frank, c'est qu'ils ont de la misère à le trouver.
Oh.
Il a fallu qu'il passe par l'entremise de sa mère et sa sœur en Floride. Puis là, ben, ses allées et venues sont pas claires. Puis en tout cas, fait que visiblement, ça va aller de l'avant. C'est sûr qu'on va en parler, Frank, parce que c'est clair, ça avait tellement fait couler d'encre à l'époque et tout ça. Fait que c'est sorti, en fait, c'est relativement récent. Là, je l'ai ajouté, en fait, au sujet dont je voulais parler. C'est sorti ce matin, aujourd'hui. Par contre, j'ai vu quelque chose, Frank, que j'ai jamais vu.
C'est-à-dire?
J'ai 50 ans à cette heure, là. J'ai jamais vu ça.
Demi-siècle.
Bernard Drainville se fait questionner sur les raisons expliquant la pénurie de professeurs. Il sort la cassette classique, c'est à la faute des libéraux.
Ah oui, ben oui.
Puis Carlos Letao, qui était ministre des Finances à l'époque, il dit qu'il a raison.
Ça, c'est une première, par exemple.
Ah oui, c'est ça.
Ah ouais, on a été mauvais, si tu veux.
Ah oui, il a été en entrevue à Radio-Canada, puis il a dit « si c'était à refaire, j'aurais été plus modéré. Les restrictions ont entraîné un frein des embauches dans les écoles. C'est ça, en éducation, je l'admets, qui a causé beaucoup de difficultés. » As-tu déjà entendu un affaire de même, toi?
Un politicien qui admet une erreur de son administration et de son parti?
Puis rappelons que c'était sous Couillard, ça, là.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai l'impression que il n'ira plus en politique, là, puis il se sent peut-être libéré. Mais y a-tu donné des raisons? Pourquoi? Est-ce qu'il a rejeté au moins... Tu sais, c'est un politicien, là, je veux dire, c'est sa nature. Est-ce qu'il a au moins rejeté la faute sur quelqu'un d'autre, sur le chef de son parti?
Écoute, cette sortie publique coïncide avec une série de nouvelles, évidemment, sur les conséquences de la pénurie de main-d'œuvre en éducation. Le Centre de services scolaires de Montréal s'est résigné à embaucher des enseignants non légalement qualifiés. Bon, là, regarde, je questionne un peu l'emploi de cette formule de phrase-là. Là, t'sais, non légalement qualifié, ça veut pas dire qu'ils sont pas capables d'enseigner. Tant
ben, ça veut dire qu'ils ont probablement pas le brevet d'enseignement.
Ben ouais, c'est ça. Auprès des élèves les plus vulnérables en adaptation scolaire, rapporte la presse, c'est les délais d'attente subis par les élèves allophones. Ben, ça, c'est un autre problème. Ça a sorti ce matin. Il y en a fait état dans le Journal de Montréal. C'est que là, il y a une grande... Il y a une recrudescence d'élèves allophones. Fait que là, tu sais, quand on dit tout est dans tout, ben là, ça parle de Roxham, puis là, ça parle de, tu sais, des élèves allophones, là, qu'il y en a plus qu'avant. Fait que là, tu checkeras bien ça, là, ça va tout se mélanger ensemble. Ça, là. Ah, c'est ça, parce qu'ils veulent pas fermer le chemin Roxham, c'est pour ça qu'il y a plus d'allophones dans nos écoles, puis là, les professeurs, ils sont pas bons, puis regarde bien ça, là.
OK, oh, bon. Ben oui, on s'attend
c'est
à ça.
C'est sûr,
là.
sûr là, que ça va, c'est sûr que ça va, comment dirais-je, ça va chirer, c'est sûr, mais ça, on va suivre ça, évidemment, c'est ça qu'on fait, nous autres, mais c'est moi, je n'ai aucunement souvenance. OK, peut-être 50 ans avant, là, c'est Camille Lorrain qui dirait qu'on a fait telle affaire, puis c'était à refaire, on le fera autrement. Non, non! Bernard Drinville, qui hérite du ministère de l'Éducation suite à la réélection de la CAQ, et le ministre qui était là et qui était responsable, qui était aux finances à l'époque, si je ne me trompe pas, Letao, lui dit, qui a été là de 2014 à 2016, là. Sous Philippe Couillard, ouais, il a pas dit qu'il a raison là, dans son entrevue. Ils n'ont pas parlé de Bernard Drinville qui dit que c'est la faute des libéraux, mais il confirme que c'est pas mal ça. Hey, moi, j'ai jamais vu ça.
Hey, mais Drinville doit jubiler. Sur... Oh, ben,
qu'est-ce que tu veux d'autre? Hey, là, Frank, faut qu'on le fasse. Parce ouais. que c'est on nous news. Y sommes. Ben oui, breaking news en plus. Écoute, ça a été annoncé par Mike Tremblay. Écoute...
D'accord.
Tout est dans tout, je l'ai dit. Fait que, oubliez pas, ce soir, 21h, il va être là avec Steve Depoche. Mais, fait que, écoute, moi, je tombe en bas de ma chaise. J'ai fait que, ben, ouais, non, que c'est ça, là, les politiciens qui se font des passes à la palette. J'ai jamais vu ça de ma vie, là. Fait que, les gars, je trouve ça bien.
Les politiciens adversaires, ouais, c'est ça, c'est assez rare. Mais je veux dire, c'est un politicien puis un ex-politicien. Hein. Ça, c'est une nuance cruciale.
Ouais, non, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que M. Letao fait actuellement, là. J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que c'est un économiste, là. Mais j'imagine qu'il doit travailler dans son...
Il doit faire de l'économie.
Dans son champ d'expertise, n'est-ce pas?
Il doit faire de l'économie voilà. comme ce couple de Victoriaville. On va retourner dans le monde des voyages et des vacances.
Oh.
Couple de... En fait, une famille de Victoriaville avait planifié un voyage en Thaïlande après 3 ans de pandémie. Ils voulaient se gâter un petit peu. Donc, ils ont voulu faire eux aussi des économies. Et, tu sais, c'est la mode hein, de magasiner ces billets d'avion, ces forfaits, puis ça vaut souvent la peine, on sauve de l'argent. Mais il faut faire attention où on magasine. Ils sont allés sur la page Internet JetCost qui les a redirigés sur un autre site qui s'appelle The Flight Makers, où ils ont trouvé un deal incroyable. Fait qu'ils ont acheté leurs billets pour la Thaïlande, là. Ils ont dit, Colin, on a économisé beaucoup. Mais le soir même, un petit un mauvais pressentiment habitait le couple. Fait qu'ils ont essayé de contacter la compagnie de carte de crédit pour annuler leur achat. Mais apparemment, la transaction n'était pas suspecte. Donc, ils se sont dit, on est correct, on a eu peur pour rien. Fait que notre voyage nous coûtera moins cher, puis on va aller faire des belles vacances avec nos enfants en Thaïlande. Mais trois jours plus tard, sans avoir aucune nouvelle de The Flight Makers, ils ont fait plusieurs appels à la compagnie, si c'est vraiment une compagnie, parce qu'ils se sont fait raccrocher la ligne au nez à chaque fois qu'ils ont appelé. Puis là, quand on va voir les avis Google de cette compagnie-là, on s'aperçoit que c'est carrément de la fraude. Puis t'auras pas de billet d'avion. Puis le jour de leur départ, qui était censé, en tout cas, leur institution bancaire a commencé à rembourser les billets d'avion qu'ils ont jamais reçus. Donc le voyage est à l'eau. Au moins, ils ont récupéré de l'argent, mais faut faire attention à ça, hein. Évidemment, on nous conseille toujours de faire appel aux agences de voyage, puis les gens reconnus, tout ça, mais je comprends ceux qui magasinent un peu pour essayer de faire des deals, mais renseignez-vous sur les compagnies. Flight Makers, Jet Cost, évitez ça. ça donne pas de billets. Ça fait juste faire disparaître votre argent en même temps que vos projets de vacances. Fait que faites bien attention à ça. Et on dit dans les conseils du centre antifraude, on dit examinez votre facture avec minutie avant de faire le paiement. Certains fraudeurs peuvent utiliser des noms d'entreprises qui existent déjà, des vraies entreprises. Flight Maker, je pense que ça existe juste pas, là. C'est une compagnie, en fait, c'est une compagnie qui existe et qui fait dans la fraude, là, spécialisée dans la fraude, apparemment. Évidemment, on préconise de faire affaire avec une agence de voyage. Comme ça, on peut s'y référer s'il arrive quoi que ce soit. Et ces gens-là font l'entremetteur avec le site ou la compagnie qui vend les billets en question. Renseignez-vous. Puis allez faire des petits... allez googler au moins la compagnie qui vous offre un rabais incroyable avant de profiter de ce rabais-là, juste au cas où ça serait pas comme Flight Maker, puis ça fait juste faire disparaître l'argent, les vacances, et il n'y a pas de billets qui arrivent.
C'est quand même étonnant, hein, que dans la foulée de la pandémie, tu sais, que t'sais, on se souviendra, là, les agences de voyage s'attendaient à la manne, là, tu sais, quand les mesures ont été élevées, tout ça. Puis c'est quand même assez étonnant qu'il n'y a pas eu autant. Il y en a eu, là, mais c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas eu autant d'histoires à brocadabrante, malgré qu'il y en a. Encore ce matin, le Journal de Montréal faisait état de gens qui ont été qui sont retrouvés mal pris, si on veut, avec des Airbnb puis des affaires comme ça. Mais écoute, c'est bon, tu sais, en même temps, l'inflation est tellement élevée que tu sais, on se dit bon, après la pandémie, le monde va partir en voyage. Puis, tu sais, non, ils n'ont pas une scène. Fait que,
c'est quand même moins pire que...
Merci, Moss Ritter, mais c'est déjà fait. On l'a déjà annoncé, mon cher. Ou ma chère, je sais pas. C'est les noms de Twitch, on sait pas.
On sait jamais. C'est quand même moins pire, ça, que de se faire mettre de la drogue dans ses bagages par l'aéroport qui est censé nous ramener à bon port. Tout à fait. Non, c'est ça. Faites attention dans les voyages. Faites attention en achetant vos billets. Faites attention avec vos bagages. Barrez-les, je sais pas. Si vous allez travailler pour une compagnie aérienne puis que vous trouvez de la drogue dans votre soute d'avion, dites-le pas à la police. Poussez-vous dans les airs avant qu'ils vous mettent en prison, même si c'est pas vous le coupable. C'est spécial, hein? Drôle de monde.
Je sais pas qu'est-ce qui est devenu, sans joke, là, l'industrie du voyage après la... Là, on parle d'histoire à Bracadabrante et tout ça, mais je sais pas ce qui est devenu l'industrie du voyage en tant que telle après la pandémie. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de reportages là-dessus, tu sais, l'état des choses ou appelons ça comme on voudra. Là. Je me demande, tu sais, parce que tu sais, l'industrie du voyage fut un temps où est-ce que, tu sais, moi, là, je travaillais dans des bureaux, puis il me semble tout le monde sacrait son camp pour devenir agent de voyage. Tu vois, je suis parti ça, je fais ça chez nous, je fais partie d'un regroupement, tu sais, puis tout ça. Puis je sais pas, est-ce que ça s'est consolidé? Est-ce qu'il y a, s'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie du voyage, là, faites-vous, manifestez-vous, parce que moi, je suis très curieux. J'ai des amis qui ont travaillé dans ça aussi, à l'époque où je voyageais plus, puis il me semble que, écoute, j'entends plus autant parler. Tu sais, il me semble même sur Google AdSense, tu sais, c'était rien que ça. Là. Tu faisais rien quoi, des palmiers puis des 60% tout le temps, là, tu sais. Puis là, je sais pas. Il me semble que ça a l'air plus, ça a l'air plus tranquille. Je sais pas comment va cette, cette industrie-là. C'est sûr qu'on est tous cassés aussi, là, mais bon.
Il y a ça.
Ça, c'est une autre histoire.
Il y a ça. Il y a une nouvelle façon de d'écourter son, son séjour en prison qui pourrait apparaître au Massachusetts. C'est-à-dire que des détenus pourraient sortir plus tôt en échange d'un don d'organes ou de moelle osseuse. C'est assez spécial, pareil, cette affaire-là. On sait que...
Il y a rien qu'au States que tu peux avoir une affaire de même.
Ben moi, je, pour vrai, je, ça m'étonne que ça n'existait pas avant. Puis ça m'étonne aussi de savoir que depuis 1984, il est interdit de faire des dons d'organes en échange d'argent. T'sais, l'argent étant la valeur suprême aux États-Unis, hein, la business et la liberté, je me suis dit, Colin, j'aurais pensé que c'était légal de vendre des morceaux de soi-même. Au moins dans ce pays-là, tu sais. Mais bon, c'est une, cette loi-là de 84 est toujours en force. Il est interdit de recevoir de l'argent en échange d'un don d'organes. Mais là, c'est parce que il y a 104 000 personnes aux États-Unis qui sont en attente d'une transplantation d'organes, dont 59 000 sur une liste d'attente active pour lesquelles c'est plus urgent. Évidemment, là, c'est une question d'éthique, tout ça, puis j'imagine que ça va être débattu pas mal. Mais on évoque cette possibilité-là. Là, c'est quelqu'un du Parti démocrate. Attends un peu, j'avais le nom il n'y a pas longtemps. Judith Garcia, elle offre cette possibilité-là, tu sais, pour pallier à la fois au manque d'organes pour ceux qui en ont besoin. Puis ça va peut-être désengorger les prisons de coup, tu sais. Fait que c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver. Puis moi, pour vrai, je suis pas réfractaire à ça. Là, il pourrait. Hein? Puis là, c'est pas genre tu nous donnes une partie de ton foie, puis tu sors tout de suite. Non, ça pourrait réduire leur peine de 60 à 365 jours. De 60 jours à un an, qui pourra sortir plus vite en échange d'un organe. C'est spécial, hein, maudit. C'est
pas, pas n'importe quel. Tu dis que t'es pas réfractaire à ça. Toi, t'es en faveur de ça.
Ben, crime, si ça sauve des vies, tu sais, c'est moi, je... Tu sais, donner un rein, tu sais. D'ailleurs, les...
Ah, mais si... OK, parfait. Fait que je vais te poser la question autrement, là. Parce que tu sais bien c'est quoi, là, que tout le monde qui va monter aux barricades pour ça va dire. OK, fait que moi, j'ai tué du monde, mais sous prétexte que je peux aider quelqu'un à sauver sa vie, je vais... OK, fait que là, quoi? Tous ceux qui seraient éligibles à une libération conditionnelle puis qu'il leur resterait juste un an, ils sortent un rein, puis on remet ça en société?
Ben, je trouve que c'est... Ben, regarde, la nouvelle est sortie ce matin, là, je l'ai pas
Ouais.
Mais je te dirais que c'est 60 à 365 jours, là, puis on sait qu'aux États-Unis, des fois, les sentences, c'est 322 ans, là, puis des affaires de même. Mmh. Mais je trouve que, tu sais, le but de l'incarcération, aux États-Unis, c'est sûr que c'est plus punitif, c'est plus basé sur la vengeance puis la punition, payer quelqu'un pour ses crimes, pour qu'il souffre. Il n'y a pas beaucoup de il y a pas l'aspect réhabilitation et redonner à la collectivité ne semble pas être mis de l'avant ben souvent. C'est plus on veut le punir, on veut lui faire mal parce qu'il a fait mal. Ben moi, que quelqu'un qui est prêt à mettre sa vie en péril ou l'écourter, je trouve que pour vrai c'est un sacrifice qui démontre une certaine volonté, parce que c'est pas juste, c'est pas genre t'sais, si t'as tué quelqu'un là, tu vas être là pendant 25 ans là. 60 jours à un an, je pense que tu vas avoir été puni quand même là par la sentence là. L'aspect répressif est toujours là. Puis c'est une belle façon de redonner à la communauté. Tu sais, j'explique souvent ça aux enfants. Tu sais, ils font quelque chose de mal, puis je m'excuse. Bon, c'est réglé. Je m'excuse, c'est des mots. Tu sais, quand tu veux vraiment t'excuser, tu fais amende. Tu t'amendes. Tu pose un geste qui montre ta bonne volonté et qui répare un peu ton erreur, qui fait du bien à quelqu'un. Ça fait que au-delà des mots, au-delà de la punition, de la sentence, je trouve que c'est une belle façon de redonner à la communauté, de sauver une vie, surtout si c'est quelqu'un qui en a pris une vie. Puis on lui offre de, admettons, dans le on va mettre ça dans le cas le plus extrême, non, c'est bon. C'est-à-dire de 365 jours. Là. Quelqu'un qui a pris une vie, par exemple, qui est condamné à, je sais pas, 28 ans de prison, ben un an de moins, mais il fait un sacrifice qui est important, là, de soit réduire son espérance de vie ou de se mettre en danger. Par exemple, tu donnes un rein, t'en restes rien qu'un. S'il arrive quelque chose à ce rein-là, ben tu peux le payer. Tu peux en mourir. Puis si t'as pris une vie, ben en sauver une, il me semble que c'est la meilleure façon de s'amender de ce crime-là. Une vie pour une vie. T'as enlevé une vie, ben là, tu peux permettre à quelqu'un de sauver la sienne. Puis oui, tu vas sortir un petit peu avant le temps.
Qu'est-ce qui va arriver?
C'est pas des années, là, je le rappelle. Là. Fait que, vas-y.
Ben, il va y avoir des manifs dans les prisons. Un rein, ça vaut plus qu'un an.
Oui, c'est ça, ils vont se négocier la valeur des reins.
C'est sûr que... Puis là, attends, là, mettons tu veux aider quelqu'un. Tu sais, ça va-tu virer débile au point de... Ah, ben, gars, m'a donné une dent pour éclairer mes étiquettes, tu sais, whatever.
Je
prends des exemples épais.
Ouais, ben, je suis pas sûr qu'une dent, c'est un organe.
J'ai hâte de voir
mais...
dans la pratique, ça va être quoi, cette affaire.
Ouais, ben, écoute, ils vont l'essayer, là, tu sais. Puis, mais tu sais, on parle d'un organe, là, c'est quelque chose d'important, là, tu sais. Puis, je trouve que c'est une belle façon de s'amender. Puis, la peine ne disparaît pas. Elle est juste écourtée de 60 jours à un an. Fait que, si t'as été en dedans, si t'as été condamné à 20 ans de prison, ben, l'aspect punitif de la prison est encore là. Puis en plus, tu peux sauver une vie pour t'amender envers la société. Moi, je trouve que c'est pas nécessairement mauvais. Là, j'ai pas de gros problèmes d'éthique par rapport à ça. C'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui a fait une tuerie de masse dans une école secondaire, ben, je pense pas que s'il donne un rein, ça va donner grand-chose sur sa peine. Là. Moi, je serais prêt à dire que donne ton cœur ou ton cerveau. Les organes que t'en as rien qu'un. Mais non, moi, pour vrai, je trouve que c'est une approche intéressante qui va à la fois permettre à des détenus de s'amender, de rattraper un peu leur faute en sauvant une vie. Et justement, ça va sauver les vies de gens innocents, des gens qui sont malades, qui mériteraient une greffe d'organes. Mais qui n'y ont pas accès parce que les organes ne sont pas disponibles. Je pense pas qu'on les vende, là. Je pense pas qu'il y ait un marché. Là, c'est pas comme un marché noir d'organes, là, pris sur des gens kidnappés. Là, ça va se faire dans les règles de l'art, là, dans des hôpitaux.
Moi, éthiquement parlant, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Là.
Non, moi, j'ai pas de problème avec
ton
ça.
Point, je comprends tout ton point de charité chrétienne, là, Frank, mais moi, non. Ouais, c'est une peine. Envoyez en dedans, puis that's it. Puis sensibilisons les gens plutôt à signer leur carte de don d'organes, puis toute la kit. On ne sera pas allé harvester des organes à des détenus. Là. Ça n'a pas de bon sens.
Mais le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un meure et que cet organe-là soit en santé, puis que l'organe soit transplanté à temps. C'est compliqué, une greffe d'organes. Alors que tu peux donner un rein à un membre de ta famille. D'ailleurs, c'était interdit pour les détenus et même les condamnés à mort de faire des dons d'organes. C'est quoi? Je comprends là, l'aspect punitif de la prison.
Droit,
là.
C'est une autre affaire. Pas le droit, c'est une autre affaire. Je suis d'accord avec ça.
Je comprends l'aspect punitif de la prison. Là. Puis là, OK, t'es condamné à mort. Mais on veut que tous tes organes meurent aussi, là, tu sais, c'est pas...
Ben non, ça, je suis pas d'accord.
C'est épais, là. C'est vraiment épais, là. Mais pour vrai, moi, je trouve que côté justice, ça change pas grand-chose à une sentence, je crois, là. T'sais, une sentence importante, quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, comme des meurtres, c'est pas 75 jours de prison qui va faire qu'il va être moins puni. Puis, de ce que je comprends, tout est... T'es en faveur, t'as une vision punitive de la prison, puis c'est correct, il faut que ce soit punitif aussi, là.
Tout à fait.
Mais
moi, je dis purge ta peine, là. Ben, après ça va être quoi? Ah, si t'aides des enfants, tu sais, au Québec, là, On n'a pas assez de profs, quoi. Les prisonniers qui peuvent enseigner, on va faire des zooms avec eux autres. Ça va lui enlever une heure à chaque heure qu'ils regardent. Moi, je
suis ben en prison. Là, c'est la même logique que tu sais. C'est pas la même logique, mais c'est le même type d'exagération des piqueries assistées où ce qu'on dit, ben, c'est ça. On leur donne les seringues, puis demain, on va leur donner de la drogue. Là. Ça ira jamais jusque-là, Martin. Là.
Ben non, je le sais. C'est un exemple, puis on est dans un show, Frank.
Oh, ouais, okay,
sauf ben, que, tu sais, il reste que. Tu sais, moi, éthiquement, je suis pas en faveur de ça.
Okay,
ben, si, on va te donner un exemple. OK, s'il y a un prisonnier qui se rendrait compte pour raison X qui est compatible avec quelqu'un, ben écoute, c'est merveilleux. S'il est capable de donner un rang à sa mère ou des affaires de mère, je réduirais pas sa sentence pour ça.
Bon, moi, ce que j'aime, c'est que c'est limité, c'est le maximum, c'est un an. Donc, quelqu'un qui a commis un crime grave aux États-Unis, il va longtemps en prison, là. C'est pas comme au Québec, là, que tu violes des enfants, puis deux ans plus tard, tu brasses de la sauce à spaghetti dans un centre communautaire pour les petits pauvres, là. Tu sais, c'est... Il y a des vraies sentences, là-bas, là. Puis, écoute, moi je suis de ceux qui croient à la réhabilitation et au fait de s'amender plutôt que juste punir, parce que toutes les études l'ont démontré, là, les grosses sentences de prison puis la peine de mort, ça n'a aucun effet dissuasif. La répression, la prison juste pour punir puis venger, ça sert à satisfaire l'État, les victimes, puis faire des bons shows aux nouvelles. T'es mon esti! Mais ça a aucune espèce d'effet dissuasif. Les États où il y a la peine de mort, ben les crimes passibles de peine de mort sont pas moins fréquents que les États où il y a pas la peine de mort ou où les sentences sont plus faibles. La prison, ça n'a jamais été un élément de dissuasion important. Puis la peine de mort, ça a jamais fonctionné. C'est le seul but de la peine de mort. C'est la vengeance. C'est vraiment juste ça, là. Ça sert rien qu'à ça. Puis des peines démesurées, 322 ans, ça sert juste à ça aussi, là. Ça sert à montrer au public que la personne a été bien punie, mais les criminels semblent pas être affectés par ça, des sentences spectaculaires ou des peines de mort. Fait que moi, je crois que la réhabilitation, comme on fait au Canada, c'est une bonne voie. Puis je pense que au-delà de la punition, le fait de donner la possibilité à ces prisonniers-là, ces criminels-là, de s'amender en sauvant une vie innocente, ben je trouve ça préférable. Je trouve qu'il y a un bénéfice supérieur à leur faire passer 62 mois de plus en dedans, là, tu sais.
Il y a deux affaires, là. Vas-y. Un, ben moi, je trouve que c'est une forme de... Tu sais, toi, tu vois ça comme de s'amender. OK, c'est correct. Moi, je vois ça comme une forme de monétisation, de vendre un... Tu sais, c'est pas ni plus ni moins que de vendre un organe, tant qu'à moi.
Ben, ils reçoivent pas d'argent.
La prison, la prison, ça sert pas juste à réhabiliter le monde.
Ben,
il y a du monde qu'il faut pas qu'il soit en société, là. Tu sais, ça sert pas juste à ça. Fait que, tu sais, souvent, on a... Je dis pas que tout le monde dit ça, mais tu sais, souvent, je trouve qu'on a tendance à vouloir over-socialiser ce qu'est ou à rendre ça plus toujours à propos de la réhabilitation. Moi, je suis en faveur de la réhabilitation. Je suis en faveur que quelqu'un qui a purgé sa peine ait la possibilité de réintégrer la société. Puis ça, avec les stigmates qui sont associés au fait d'avoir été en prison, c'est un fait connu qu'un gars qui est en dedans ou une fille est en dedans, de la misère à trouver une job, tu sais, c'est plus difficile. On est tous d'accord là-dessus. Sauf qu'il reste que la prison sert aussi à protéger la société. Puis
ben
je trouve
oui,
que
ben
souvent,
oui, mais,
on n'en parle pas.
Mais,
c'est
mais,
pas qu'on n'en parle pas,
mais
ça fait moins partie du discours qu'avant.
Si tu peux sortir 60 jours avant, je pense pas que ça change grand-chose sur la protection de la société. 60 jours à un an, là, c'est pas grand-chose. Puis là, tu sais, on écrit des commentaires, tu n'aurais jamais réhabilité Ted Bundy. Ben non, je suis pas en train de dire qu'il faut réhabiliter n'importe quel criminel.
Frank, ce que je viens de dire, là, c'est pas... Ça va mettre en danger la société parce que les gars vont sortir avant. C'est pas ça que je dis, là. Pas en tout, là.
Okay.
Ce que je dis, c'est qu'à la base, au départ, la prison ne sert pas juste à prendre quelqu'un un petit pas fin qui fait des affaires pas fines, puis à faire en sorte qu'il n'en fasse plus. Ça en fait partie du mandat du système carcéral. Mais aussi, ça sert à faire en sorte que des criminels endurcis qui tuent du monde ne soient pas dans la société.
Je suis d'accord avec ça à 100%.
Mais je veux pas dire, attends une minute, je veux pas dire que si, parce qu'il donne un rein, il va sortir un an avant, que là, on met la société en danger. Mon point de contention avec ça, c'est que pour moi, c'est une forme de monétisation d'un organe. C'est tout. Puis je suis pas à l'aise avec ça.
Ah, voilà. Okay.
C'est pas plus dur que ça, mais ça veut pas dire que... Je suis pas en train de dire que je pense que les gens, les citoyens vont être plus en danger parce que les gars ils vont sortir avant. Là. C'est pas ça que je dis pas en tout. Là. Du tout. Là. De toute façon, la majorité des... Moi, ce que je pense, là, puis j'ai rien pour appuyer ce que je dis, c'est que il y en a plein qui le font. T'sais, ils se diront pas « Hey! » Au lieu d'avoir 57 ans, avoir 56 ans. Ben non, ils le feront juste pas, that's it.
Ben non,
ça va être
ça.
Une affaire de religion encore. As-tu pensé à donner un organe? Si Jésus va être content, c'est sûr qu'il va arriver.
Non, mais tu sais, pour que 60 jours à un an de prison, ça fasse une différence sur ta sentence, assez pour que tu fasses un don d'organe, c'est parce que ta sentence était pas grosse, puis t'es pas Ted Bundy. Arrêtez de me sortir des exemples de meurtriers en série. Eux autres, ça change quoi rien. Quand même qu'ils donneraient tous leurs organes. Si t'as 326 années à purger en prison ou t'es condamné à peine de mort, t'as beau donner la moitié de ton foie, ton rein, puis un de tes poumons, ben au pire, tu vas avoir 325 ans et demi. Ça change rien sur le punitif. Puis ah oui, oui, je suis en faveur de la réhabilitation, mais j'ai jamais dit, je peux m'adresser à ceux dans les commentaires, que tout le monde était réhabilitable puis qu'on pouvait réhabiliter tous les prisonniers. Là, je suis pas l'apôtre de la rédemption. Là, quelqu'un qui viole des enfants, j'aimerais mieux qu'il soit en prison toute sa calisse de vie. Non, c'est pas à toi que je parle. Tu sais, fait que c'est ça, faut pas me sortir des exemples exagérés de tueurs en série. Il y en a qui sont pas réhabilitables, je suis bien d'accord avec ça. L'aspect punitif, je suis d'accord avec ça aussi, là. Sauf que il faut pas que ce soit le seul objectif de la prison. Puis aux États-Unis, c'est le cas, là. Aux États-Unis, c'est juste varger sur, tu sais, puis c'est la vengeance.
La prison,
ça marche
là,
pas, hein. En passant, ça marche pas, leur système aux États-Unis, là. Le crime ne fait qu'augmenter. C'est le pays dans le monde qui a le plus grand pourcentage de sa population incarcérée. Il y a des prisons qui sont des business, qui font des profits à chaque prisonnier qui rentre là. Fait que, tu sais, ça marche pas, leurs affaires. Fait que...
La prison, là, tu sais, le scénario idéal, c'est que la prison identifie ceux qui sont en mesure d'être réhabilités puis gardent le plus longtemps dedans ceux qui sont les plus dangereux. C'est ça, une prison.
C'est pour ça que...
Avec des services connexes, avec des professionnels de la santé mentale, avec des criminologues, c'est ça que ça fait une prison. Est-ce que c'est ça que ça fait? Pas sûr. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y a des prisonniers qui sortent au tiers de leur sentence, puis d'autres qui purgent leur sentence au complet. Ils ont des évaluations psychiatriques, puis ils voient si c'est quelqu'un qui peut être productif dans la société ou quelqu'un qui est un danger. Si quelqu'un est un danger dans la société, puis qu'il prouve en prison, puis que tu sais que c'est déterminé selon son comportement, puis sa psychologie, il va faire sa sentence au complet, là, tu sais. Fait que, tu sais, bon, on me dit, je suis pas sûr que je voudrais recevoir un organe de pédophile. Ben, écoute, je pense pas que les pédophiles vont tu sais, je pense que... je sais pas si les pédophiles vont avoir accès à ce programme-là, là. Mais, bon point, 60 jours, mais 6 mois à se remettre de l'opération, c'est vrai. Tu sais, si tu sors 60 jours plus tôt parce que t'as donné un organe, tu vas être quand même dans ton lit pendant des mois parce que c'est dur se remettre de ça. Puis, d'après moi, un foie de pédophile ne te rendra pas pédophile. Son foie est pas pédophile. Puis,
je pense pas que c'est ça que la personne voulait dire.
Ben non, je sais bien. Mais je veux dire, non, ben c'est sûrement une question de principe.
Salut, Martin Godet,
mais
c'est quoi pédophile?
Mais non, ben c'est ça. Tu sais, si un d'organes pouvait me sauver la vie, je me foutrais-tu? Tu penses de quel genre de personne me donne cet organe-là? Je veux sauver ma vie, puis je m'en fous-tu, moi? lui, il prend pour les Canadiens, moi, je prends pour Boston. C'est pas vrai que je vais avoir un fouet d'un partisan des Canadiens. Un fouet, c'est un fouet.
Je pense pas non plus que tu reçois... Je pense que, là, ça, je suis pas sûr de ça, mais je pense que c'est à la discrétion de la personne qui reçoit de savoir la provenance. Parce que je peux te parler d'un lutteur qui s'appelle C'est un lutteur qui s'appelle Superstar Billy Graham, qui il a dû recevoir une greffe de. C'est un foie. En tout cas, je pense que oui, là, peu importe. Là. Il a reçu un don d'organe, puis tu sais, lui, il a une photo de la jeune fille. C'est une jeune femme qui est décédée dans un accident d'auto, tu sais, tout ça. Puis lui, à l'époque, là, il était en âge assez avancé. Puis il y a une photo d'elle chez lui, puis tout. Tu sais, j'imagine que, tu sais, ça semble de voir quelqu'un qui s'est fait donner un rein, tu sais. Puis il y a une photo d'un inmate chez lui,
ma petite cocotte dit, à cheval donné, on regarde pas la bride. C'est ça, à foie donné, on regarde pas la bride. Oh, celle-là est bonne. Tom Ling dit « Un foie de non-vacciné, ça risque de pas trouver preneur facilement. »
Non, c'est ça. Chatonnet a dit « C'est confidentiel. » Tu peux savoir de qui ça vient. Là. Tu peux le demander. Là. C'est parce qu'il y en a plein de monde là, qui ont raconté que les autres sont greffés du cœur ou sont greffés d'un rein ou du foie ou whatever. Là, dans le cas d'organes, là, peut-être moins. Puis il y en a qui viennent à bout de savoir de qui ça provient.
Oui, mais
je comprends bien que
si ça vient
d'un détenu, notion de confidentialité quand même là-dedans.
Si ça vient d'un détenu, dites-moi juste pas c'est qui et qu'est-ce qu'il a fait. Je veux pas le savoir. Je veux juste vivre avec mon nouveau foie fonctionnel. T'sais.
C'est ça. Exact.
Mais c'est ça. Moi, je trouve ça bizarre aussi. Là. Je comprends que tu sais, y a une question d'éthique là-dedans. Mais de voir que c'est limité à un an maximum, puis que les criminels dangereux tu sais, qui ont fait des crimes violents, d'habitude aux États-Unis, ils ont pas des sentences bonbons. Là. Ils se ramassent avec des grosses sentences, fait que c'est pas eux qui risquent d'être visés par ça, à moins que leur sentence achève et qu'ils aient, autrement dit, payé leur dette à la société. Cette expression-là, elle veut dire quelque chose. Là. T'sais, si on décide que c'est 25 ans, après 25 ans, on peut plus te tenir rigueur, t'sais, on peut demander... Si tu montres que tu es encore un danger pour la société, ça se peut que tu sois pas libéré. Là. C'est pas aussi laxiste qu'au Québec. Là. Mais dans un système basé uniquement sur le punitif et qui a fait ses preuves comme ne fonctionnant pas du tout, là, ben, je trouve que c'est une avenue intéressante. T'sais, c'est quelque chose à essayer, puis ils vont l'essayer. On va aller faire une petite pause là-dessus. Puis je vais aller me décongestionner un petit peu en attendant de recevoir mes nouveaux sinus de fraudeur d'impôts. Bon, on revient tout après.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Ah, c'est un
madou. Sage parole.
Oui, monsieur. As-tu quelque chose d'autre pour nous autres?
Ben, écoute, c'est un peu capoté, là. Tu sais, c'est parce qu'on n'arrête pas. Tu sais, Donald Trump est tellement mauvais que, tu sais, ça nous fait un peu rendre Rob DeSantis plus vanille. Mais il est mauvais en tabouin, lui, avec. Là. On se rappellera, là, un de ses hauts faits d'armes, c'était d'avoir dit, pendant qu'on était dans une espèce de pic là, de la pandémie, ça avait été de dire des professionnels de la santé qui recommandent fortement à des citoyens de se faire vacciner. Jamais! Tu sais, c'est des affaires de main. Il a dit ça, là. Il n'est pas question que nos professionnels de la santé recommandent au monde de se faire vacciner, OK? Mais là, imagine-toi donc que pour Ron DeSantis, les manuels de mathématiques, Frank, ça, c'est de l'endoctrinement. Ça.
Ah bon. C'est quoi son rose, là?
Ça contribue à perpétuer le sentiment d'endoctrinement et de pensée unique. Les mathématiques, là, c'est de la pensée unique, ça.
Mm-hmm.
Limiter que les écoles et les employeurs peuvent enseigner sur le racisme et d'autres aspects de l'histoire et rejeter en masse les manuels de mathématiques pour ce que l'État a appelé l'endoctrinement. Plus récemment, il a interdit les cours d'études afro-américaines de l'Advancement Placement du College Board pour les élèves du secondaire. Fait qu'en gros, là, ce que je viens de dire là, c'est que DeSantis, là, l'histoire afro-américaine, tu sais, ce qui s'est passé dans au niveau de l'esclavagisme, on devrait pas enseigner ça.
Ah non, c'est pas important, ça.
Non, non.
Ce qui est important, c'est de parler des hauts faits des États-Unis puis comment est-ce qu'ils dominent la planète avec leur armée puis leur argent.
Pis écoute, ça, c'est ça ce qu'il veut éliminer. S'il est adopté, parce que là, il a présenté un projet là au, dans l'État de la Floride, s'il est adopté, des cours de civilisation occidentale seront obligatoires, tu sais, les cours pour parfait white male.
Oui, c'est ça, des cours de d'histoire blanche.
Puis les programmes de diversité et d'équité seront éliminés et les protections liées à la permanence seront réduites. Fait que ça veut dire que, tu sais, là, parler de l'homosexualité, parler de, tu sais, écoute, il a interdit l'enseignement de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle de la maternelle à la troisième année. Fait que de maternelle à troisième année, là, il faut pas que tu entendes parler des différences que certaines personnes ont, du fait qu'ils sont, que quand tu les regardes,
aussi, mais Martin, ça rend les enfants gays. C'est comme ça qu'ils pensent, les républicains. Pour eux autres, c'est des cours d'homosexualité puis de transgenre, puis les élèves apprennent à devenir gays puis apprennent à changer de genre. C'est, pour eux autres, c'est ça, là. C'est de la bigoterie extrême de droite religieuse, là.
Mais écoute la citation de Maillet. Si c'était une école privée qui faisait ses choix, ce serait très bien. Mais je veux dire, là, vu que c'est financé par l'État, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une école qui est financée par l'argent des contribuables. C'est comme s'il disait à ses constituents, là, à ceux qui l'ont élu là, c'est comme s'il disait, ben, si vous voulez enseigner des niaiseries, là, partez-vous des écoles privées. Mais le monde, tu sais, qui se font éduquer par le système de santé publique, ben, vous ne le saurez pas que ça existe, l'homosexualité. Vous ne pourrez pas enseigner sur l'histoire des Afro-Américains. Puis les mathématiques, ça, c'est de l'endoctrinement. Imagine-toi, ouais, là.
Si tu fais de l'argent, tu peux enseigner n'importe quoi. Hein, la business, puis le cash. Si tu fais de l'argent, tu as le droit de fucker nos enfants, de là, son point de vue à lui, là. Mais l'État, on va pas donner des cours qui rendent gays. Hey, wow, là! c'est n'importe quoi. Ce pays-là est en train de l'échapper moralement, mais solide, là. On dirait que c'est le déclin moral de ce pays-là qui a été longtemps une des lumières du monde, le pays de la liberté, de la démocratie, à l'image de la démocratie française. Mais le problème des États-Unis, c'est que c'est plein d'Américains dedans.
Quelques situations dans lesquelles Ron DeSantis s'est lui-même mis et qui a eu l'aide d'un méchant maillet, ben il a déjà été speaker dans une manifestation où on faisait de façon très claire du muslim bashing avec Milo Yiannopoulos et Steve Bannon. Il a déjà en parlant de Alexandria Ocasio-Cortez qui est une étoile montante de la politique américaine. Il l'a appelé, elle vient de Puerto, elle est originaire de Puerto Rico. Il l'a appelé en parlant d'elle, puis de son ethnicité, de où elle était. Il a dit whatever she is. En voulant dire, il sait même pas d'où elle vient. Attends, là, c'est une liste que je te fais, attends un peu, là. Il a défendu un supporter qui avait voté pour lui, qui a dit dans un podcast à un moment donné, bring back the hanging tree. On se rappellera, bien sûr, là, à l'époque où on lynchait des Afro-Américains, là. Il a été modérateur pour un groupe Facebook qui s'appelait Tea Party, dans lequel on riait de Michelle Obama. On disait que c'était un très bel homme, des affaires de même. Oui, attends, j'ai pas fini. But wait, there's more. Il s'est associé avec Sébastien Gorka, qui était, en fait, qui avait des liens avec un groupe de droite extrême de la Hongrie qui a collaboré avec des nazis. Écoute, Ron DeSantis, là, c'est pas nécessairement un premier de classe. J'en ai d'autres, là. Celui-là est épouvantable. Quand ils ont présenté l'investiture pour l'État de Floride. OK? Quand je dis que quand il a gagné le droit de briguer l'investiture dans l'État de Floride pour les républicains, ben il y avait deux finalistes. L'autre finaliste qui était avec lui, jusqu'à temps qu'ils choisissent c'est qui était pour runner en Floride. C'est un Afro-Américain qui s'appelle, bouge pas, je vais juste trouver son nom. Son nom de famille, c'était Gillum. Là. J'ai pas son prénom sous les yeux. Puis, il avait parlé de lui et il l'a comparé à un singe. Il a dit, c'est une expression, là, soyons quand même honnêtes intellectuellement, là, « The last thing we need to do is monkey this up by trying to embrace a socialist agenda. » Monkey this up, là, quand tu parles d'une autre personne, là, il n'y a pas d'erreur là. Mm. Tu peux définitivement... fait que tu sais, des associations douteuses, des calls douteux, des commentaires douteux, il y en a fait plein.
C'est pas douteux, raison, c'est franchement dégueulasse, c'est immoral.
C'est dégueulasse. La raison pour laquelle... tu sais, là, on est pris dans une situation particulière pour ce qui concerne l'investiture républicaine. C'est que d'un bord, tu as Ron DeSantis, que si Trump n'existait pas, il serait épouvantable. Puis tu as Trump. Trump, c'est le champion de toute catégorie, poids lourd, incontesté des maillets. Fait que là, tu te ramasses avec deux personnes qui vont briguer cette investiture-là, puis il n'y en aura pas d'autres. T'as oublié ça. Non, tu mets Trump et DeSantis, c'est le combat de l'année.
Les républicains vont avoir le choix entre du vomi puis de la marde. Puis peu importe ce qu'ils vont choisir, ça va donner la même affaire. Là, c'est important que les démocrates arrivent avec quelqu'un. Pas de compétent. C'est plus important, ce compétent. Là. Ça prend une star. Ça prend une star, les démocrates. Là. Arrêtez de perdre comme des épées. Arrêtez d'arriver avec des affaires intellectuelles puis progressistes. Ça marche pas aux États-Unis. Amenez une superstar. C'est ça que ça prend. C'est juste ça qui compte dans cette société-là. Il faut que tu sois riche. Il faut que tu sois spectaculaire. Tu parles fort puis que t'as l'air d'un winner puis que t'as l'air d'être game, de prendre ton armée puis d'aller clencher n'importe quel pays. C'est ça qu'ils veulent. Fait que ça prend des... un gun, du cash, un pénis, puis de la célébrité. C'est ça que ça vous prend, les démocrates, si vous voulez avoir une chance de gagner, parce que votre électorat est de même. Votre électorat, il est comme ça. C'est pour ça qu'ils votent. Des gens intellectuels, puis brillants, puis progressistes, là, genre Bernie Sanders, c'est de la merde, ça. Ça marche pas. C'est pas ça que ça prend. Aux États-Unis, si tu veux une chance de gagner, ça te prend une star. Une star qui parle fort avec un gun puis du cash. Puis les républicains, les démocrates ont pas ça.
On va finir, petit segway, pas segway, mais avant la bonne nouvelle, petit retour sur ce qu'on annonçait. Ben, finalement, la fouille qui a eu lieu chez Joe Biden, là, j'ai pas la nouvelle sous les yeux, mais semblerait-il, la dernière, en fait, la plus récente, semblerait que ça n'a pas porté fruit. Donc, écoute, est-ce que ça va contribuer à faire en sorte que même s'il est accusé de la même affaire, ça va être moins pire pour Joe? Parce que Trump, lui, il grimpé aux barricades, puis il s'est lamenté, puis patati patata. Ben regarde, l'avenir le dira. Mais là, je suis bien excité de ma bonne nouvelle, Frank.
Ah oui,
que, écoute, je savais pas tout que ça existait, cette affaire-là. Écoute bien ça. Il y a une compagnie qui s'appelle Planted, P-L-A-N-T-D, qui est en train de... qui a construit une machine qui permet d'avoir des résultats similaires à comme matériel de construction que le bois. OK? Mais c'est fait avec du gazon.
Hein?
Fait qu'il existe une forme de gazon qui pousse super vite. J'ai pas l'espèce là avec le nom latin devant moi, là. Mais il existe... Puis ce que ça permet de faire... c'est que tu peux faire la récolte de cette fibre-là trois fois par saison plutôt qu'une fois aux 20 ans.
Ah, quand même.
Fait que là, c'est un processus de laminage. Fait que là, ben, les autres, c'est que, tu sais, ils récoltent cette forme de gazon-là, ils en font une fibre, après ça, ils la laminent, puis là, ce que ça permet de faire, entre autres, ça permet de faire des panneaux, tu sais, pour bâtir des murs, des affaires comme ça. C'est hyper intéressant. La machine, là, ça a l'air de... Tu sais, moi, j'ai travaillé là-dedans, là. Ça a l'air des trains de photocopie dans les bureaux en gros, là.
Okay.
Ça ressemble à ça, mais c'est plus gros, là. C'est plus haut de terre, là, mais c'est vraiment capoté. Et l'autre affaire intéressante, c'est que ça peut absorber 30 tonnes de dioxyde de carbone à travers la photosynthèse que ça fait. Fait qu'en plus, ça mange plus de ça va favoriser évidemment l'élimination des gaz à effet de serre.
Ça en élimine plus que ça en produit, là, en tant que plante.
Exactement. Voilà, tout à fait. Fait que ça pousse plus vite. Tu peux le récolter plus de fois dans sa durée de vie. OK? Ça donne des résultats à peu près similaires à faire du bois, tu sais, de plywood, des affaires comme ça. Et c'est bon pour l'environnement. Fait que je trouve ça pas mal intéressant. Là, c'est, tu sais, la très grande majorité des choses que je vous parle sont souvent en développement. Tu sais, faut pas s'imaginer là que là, tu sais, d'ici deux ans, tout va être bâti.
On va aller chez Rona acheter des vinyres en gazon.
Ouais, j'ai entendu ça dans un podcast. Là, on peut-tu les panneaux en gazon là, avez-vous ça aux autres sites là? Non, faut pas ça. Là, c'est pas prêt encore. Là. Fait que ça va être évidemment. Puis l'autre affaire, le dernier aspect, ben évidemment, Frank, ça coûte moins cher à produire et à vendre.
Puis c'est bien moins long que de faire que pousser ça... des arbres. Ratounek demande si ça va être recyclable. J'ai l'impression, peut-être pas recyclable, mais peut-être compostable. T'sais.
Non, ben c'est ça. Là, ça, il n'en a pas fait mention. En fait, chimiquement, les fibres dans le gazon et dans le bois sont similaires. La cellulose qui est collectée du gazon et y a fond c'est processé, là, je sais pas comment le c'est machiné dans la machine, donc transformé dans le truc que dans la machine en fait pour laquelle Planted a le brevet. Puis l'autre affaire, c'est que au bout, il y a pas de sillage. Au bout, ça produit un panneau de la grandeur que tu veux.
Ah, c'est parfait ça.
Ouais,
puis la cellulose, ça peut entrer dans la. Ça peut faire des produits d'emballage à la place du saran wrap en plastique pas recyclable, puis qui s'en va, qui finit dans des estomacs de tortues puis de dauphins. Là, ben, on peut faire une pellicule semblable à ça à base de cellulose végétale. Puis cette pellicule-là est biodégradable. On pourrait emballer les aliments là-dedans plutôt que de mettre un céleri, dans trois pieds de saran wrap super serré. Puis de non, c'est intéressant. C'est une maudite belle nouvelle. Là. Ça finit bien le show. Et ça finit bien semaine.
Tout ce qui favorise la cessation de l'utilisation des carburants fossiles, ouais. Moi, je salue ça.
Moi aussi. Fait que on va terminer là-dessus. Ça va nous garder de bonne humeur après les autres nouvelles un peu décourageantes. Après avoir parlé du Parti républicain, puis c'est pas mal plus intéressant de finir là-dessus. Puis on se donne rendez-vous dimanche pour le crachoir dominical, suivi de l'after show sur Touski TV à partir de 19h30. Et évidemment, lundi à partir de midi, on commence les Express. Bye bye.
Membre de la famille H2O Web Media.